Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche soir, c'est l'heure du Grand Fauve. Et ce soir, on commence avec Yves Mourouzi en duplex de New York City. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Hello, how are you? Nous sommes effectivement à New York sous un ciel gris. Ciel gris, du vent dans cette ligne de départ du marathon 1980. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce marathon 1980, il a bien failli ne jamais avoir lieu. Car hier, c'était des trombes d'eau et des trombes d'eau qui tombaient sur New York. Plusieurs centimètres d'eau dans les rues.
Mais il a bien eu lieu, finalement, ce marathon de New York 1980. Contrairement à celui qui devait se courir ce mois-ci, le 1er novembre dernier, et qui devait célébrer le 50e anniversaire de cette course, devenue le rendez-vous mondial des adeptes du running, comme on dit aujourd'hui. Chacun a en tête les images du pont Verrazzano, noir de joggeur à la conquête du macadam new-yorkais. Mais qui se souvient aujourd'hui qu'aux origines de cette kermesse monumentale lancée en 1970 se trouvait une révolution, oui, une révolution portée par une poignée de pionniers subversifs. Eh bien, au programme ce soir, pour se remémorer l'essence première du marathon de New York, trois invités au micro d'Inter. Tout d'abord, il est historien et cinéaste, confiné en Suisse, Pierre Morat, auteur du merveilleux documentaire Free to Run que nous retrouvons tout à l'heure. Avec nous également un marathonien, 25 marathons de New York dans les pattes. C'est insensé. Il s'appelle Dominique Chauvelier et lui aussi, nous le retrouvons tout à l'heure. Et à mes côtés, en studio et en direct et masqué, un grand reporter du journal L'Équipe, Stéphane Lhermitte. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, ces liens qui unissent Mozart et le monde de l'Ovalie, musique classique et rugby. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, aux origines du marathon de New York, un idéal de liberté.
L'œil du tigre, Philippe Collin sur France Inter.
On entame cette émission avec notre séance de réveil musculaire grâce aux soins de Robert Reynaud, notre sémillant professeur de gymnastique tendance 50s. Ce soir, le professeur Reynaud vous propose de travailler les bras et les jambes, la trinité de vos articulations en action, au nom de l'épaule, du genou et de la cheville, ainsi soit-il.
Ce sera une série de battements verticaux avec les bras tendus. Les paumes sont tournées vers le sol. Vous levez les deux bras tendus jusqu'à 15 ou 20 cm au-delà du niveau des épaules et vous les abaissez d'autant à vitesse régulière, à cadence régulière. Donc avec nous, en musique et sans arrêt, vous battez, battez, battez. Après l'exercice de bras, ce sont les jambes qui vont travailler dans un mouvement d'ailleurs très simple de tangage sur les pieds. Vous vous dressez alternativement en appui sur les avant-plantes et puis sur les talons en soulevant les pointes de pied. D'abord sur les avant-plantes, soulevez bien les talons du sol, étendez-vous le plus haut possible, les jambes tendues, réunies, et puis vous reposez maintenant les pieds à plat, vous soulevez les pointes et vous n'êtes plus en appui que sur les talons. Et tout cela, je le répète bien régulièrement, sur les pointes d'abord, sur les talons ensuite, sur les pointes et sur les talons. Sur les pointes et sur les talons. Dressez-vous bien haut, vous reposez, sur les pointes encore, vous reposez les talons, c'est bien. Alors attention, à chaque fois que vous reposez les talons, vous soulevez les pointes de pied.
Bien, après l'échauffement du fantastique professeur Reynaud, allons prendre l'air et courir dans Central Park. Voici l'histoire du dimanche soir. Il y a trois semaines, le dimanche 1er novembre, la ville de New York devait célébrer en grande pompe la 50e édition de son célébrissime marathon. Mais la crise sanitaire aura eu raison de cette grand-messe mondiale du sport. Rideau, pas un chat sur le pont Verrazzano. On y attendait plus de 50 000 participants, dont une moitié d'étrangers, la plupart d'entre eux tirés au sort, tant qu'il n'y a plus assez de place pour accueillir tous les coureurs, malgré ce dossard qui coûte $350. Pardon. Lancé en 1970, on a fini par oublier qu'aux origines de cette kermesse monumentale, qui est devenue le marathon de New York, on trouve une poignée de pionniers excentriques.
Je me souviens quand je courais ici à la fin des années 60.
Je pouvais faire un tour complet, 10 km autour de Central Park, et je ne croisais que 4, 5 autres coureurs. C'était tout, en une heure de course. Je dirais que je les connaissais tous. Je ne connaissais pas leur nom, mais je les connaissais de vue. On n'était pas nombreux. On nous considérait un peu comme des cinglés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé.
Oui, les choses ont bien changé aujourd'hui. Stéphane Lhermitte, vous êtes grand reporter au magazine L'Équipe, à la rédaction de L'Équipe. Et vous avez écrit une excellente d'ailleurs série d'articles consacrés aux origines du running et de ce marathon de New York. À la fin des années 60, en effet, ceux qui courent dans les rues de New York sont très peu nombreux. Ce sont des pionniers, des excentriques, des farfelus, des subversifs aussi. Quel était leur idéal, Stéphane, au départ ?
Ben, je crois qu'on est juste dans la liberté. L'homme retrouve sa liberté. L'homme, il avait un cerveau, il avait des bras, et il s'aperçoit qu'il avait aussi des jambes. Quand on prend une frise de l'homme de Néandertal qui commence petit à petit à se lever, voilà, c'est l'évolution. Mais qu'est-ce que fait un enfant quand il sait marcher ? Après, il court. Courir, c'est juste naturel. Et on est dans un contexte où on fume pour s'évader, où il y a le flower power, où on conteste le Vietnam, on écoute de la musique à Woodstock. L'homme est en train de se réapproprier lui-même finalement, et il découvre donc qu'il peut le faire en courant, qui est un sacré voyage.
Oui, dans un contexte très urbain où on travaille beaucoup, on est aussi très très assis derrière son bureau, et tout d'un coup on se réapproprie son corps aussi. C'est-à-dire qu'en fait, courir, c'est effectivement retrouver une liberté au cœur d'un milieu très urbain.
Oui, c'est être, et en plus où ? C'est pas par hasard. Il y a des marathons ailleurs, notamment Boston. C'est à New York. New York, c'est la ville où on peut être, j'en sais rien, moi, on peut avoir les cheveux de n'importe quelle couleur, on peut presque être à poil, on est comme on veut à New York. Donc on peut aussi courir. Dans ces années-là, il ne faut pas oublier qu'en France, je me rappelle de mon père, quand il courait sur le bord de la route dans son petit village en Normandie, les gens mettaient leur index sur la tempe en disant « mais il est fou celui-là ».
Il est cinglé.
Il est cinglé.
Weird.
Voilà.
Il est weird. Il
et
est complètement
voilà.
Weird.
Et c'est, mais c'est pourtant ces gens-là, ces précurseurs-là, qui ont retrouvé la liberté, et c'est eux qui ont raison.
Pierre Morat, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et cinéaste. On vous connaît pour en tant qu'auteur de cet excellent documentaire intitulé Free to Run, qui raconte évidemment la naissance de ce phénomène running au début des années 70. Pierre, parmi ces pionniers de la course à pied à New York, il y a le fondateur de ce marathon de New York, qui s'appelait Fred Lebow. Qui est-il, Pierre, et quelle était son ambition à l'époque ?
Oui, c'est vrai que le marathon de New York doit tout, ou presque tout, à Fred Lebow. Fred Lebow, c'était un juif d'origine européenne. Son vrai nom, à la base, il l'a entre guillemets américanisé, mais c'était Lebowski. Et à la suite du génocide juif, il a immigré avec sa famille aux États-Unis, et en particulier à New York. C'est un homme qui travaillait, qui n'avait rien à voir avec le milieu du sport, avec le milieu de la course à pied ou de l'athlétisme. Mais c'est un homme qui travaillait dans le milieu plutôt fancy de la mode à Manhattan, donc à New York City, la New York plutôt opulente. Et en fait, il a découvert un petit peu la course par hasard. Et en fait, il a rejoint un groupe qui courait tous les dimanches dans le Bronx, autour du stade du Yankee Stadium, le stade de baseball, au milieu des voitures, au milieu de la circulation. Ils faisaient leur petit parcours. Et puis, une fois par an, ils couraient un marathon totalement anonyme. Ils étaient une quinzaine, qui s'appelait le Cherry Tree Marathon. Et puis, c'est un gars qui finalement courait très, très mal. Les gens qui le voyaient courir disaient qu'il courait comme un canard, c'est dire. Et en fait, c'est un gars qui courait très, très mal, mais qui adorait courir. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans cette deuxième partie des années 60, tous les coureurs, toutes les personnes qui couraient étaient des bons coureurs. Il n'y avait pas de coureurs populaires comme aujourd'hui. C'était s'exhiber, c'était quelque part indécent. Ça l'était déjà en tant que bon coureur, quelque part, en tout cas en dehors du stade. Mais s'exhiber quand on était une femme ou un coureur véritablement moyen ou mauvais, comme c'était le cas de Fred Lebow, c'était plus que mal vu. On était montré du banc, on était moqué. Fred Lebow avait non seulement ce goût de la course, même s'il était très très lent, mais il avait un peu un esprit entrepreneurial. Et à un moment donné, il a dit à ce groupe extrêmement limité, peu nombreux des coureurs du Bronx, on ne fera jamais de notre sport quelque chose un petit peu d'attractif si on reste ici à courir dans le Bronx. Il faut que notre marathon, on le descende à Manhattan. Et tous les autres coureurs, la poignée d'autres coureurs, disaient « mais il est fou ». Nous, on est très bien entre nous, la vingtaine de coureurs qui se retrouvent tous les dimanches. On n'a pas envie d'être plus grand, on n'a pas envie de s'ouvrir aux autres, etc. Mais Lebeau a insisté et finalement, il a réussi à faire immigrer, entre guillemets, le marathon du Bronx dans Central Park pour sa première édition en 1970, une édition qui se courait uniquement dans Central Park avec quatre boucles d'un quart de marathon à peu près.
127 participants, je crois. 127 participants.
Le plus total. Mm-hmm.
127 participants au premier marathon de New York et $1 l'inscription à l'époque. Dominique Chevelier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes marathonien, vous êtes né en 56, 4 fois champion de France, 100 marathons au compteur, dont 25 fois le marathon de New York. Je m'en remets pas, je trouve ça très impressionnant. Dominique, qu'est-ce que ça représentait pour vous la course à pied dans les années 70 quand vous avez commencé? Ça représentait quoi pour vous de courir sur des longues distances, Dominique?
Eh bien, c'est exactement ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire, on est en 1969, je prends ma première licence dans un petit club à La Flèche et j'aimais courir, donc j'ai 13-14 ans et lorsque je courais, je partais de chez mes parents, j'avais honte. Parce qu'en effet, je me faisais traiter de fou, ou à l'autre, ou des réflexions du genre « feignant, t'as rien d'autre à faire que dépenser tes forces à courir ». Et on est quand même dans un monde paysan, si je puis dire, ou encore oui. Les ouvriers d'usine, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sédentaire, on court justement pour dépenser nos forces. Mais à l'époque, c'était... Et moi, ce qui me faisait rêver, c'est les années 70. Et vraiment, le déclic, c'est les Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et c'est là que s'est ouvert le monde de la course à pied, du jogging, hein, parce que c'est marrant la terminologie, parce qu'à une époque, on a fait du footing dans les années 70, dans les années 80, on a fait du jogging, et aujourd'hui, on fait du running, hein, c'est un petit peu marrant, enfin moi je fais de la course à pied,
oui.
et voilà, c'est un rêve d'ado de regarder Frank Shorter, l'américain, gagner oui. le marathon de Munich, et moi je me suis dit, dès que je serai grand, c'est-à-dire être majeur, 18-20 ans, je ferai mon premier marathon et j'ai fait mon premier marathon à 21-22 ans et tout de suite j'ai été champion de France et voilà, j'en ai fait mon propre business, j'ai vécu de ça, j'ai vécu de ma passion. Donc j'ai connu toute l'embellie de la course à pied de zéro jusqu'à aujourd'hui avec des 50 000 participants au départ.
Dominique, je le disais, vous avez couru 25 marathons de New York, il y en a eu 50, vous deviez participer d'ailleurs au 50e qui devait avoir lieu le 1er novembre. Vous avez commencé donc à courir marathon de New York au début des années 90. Quel souvenir vous avez de votre première fois? Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, Dominique Chevelier, marathonien, arrivant pour courir ce marathon de New York?
Alors, c'est ce que je dis à tout le monde, le marathon de New York, c'est le avant, le pendant et l'après, c'est-à-dire les 2-3 jours précédents, le jour de la course naturellement, le départ, faire les queues, arriver sur le site, et le lendemain, vous avez couru. Alors, on ne parle pas de chrono, vous avez votre médaille autour du cou, vous allez vous balader à Times Square ou n'importe où, les gens vous félicitent, vous avez même droit parfois à une remise chez les commerçants parce que vous avez une médaille autour du cou. Imaginez ça aux Champs-Élysées, le lendemain du marathon de Paris, tout le monde en a rien à foutre de votre médaille. Vous voyez, alors ce qui m'a surpris, c'est l'enthousiasme américain. On aime ou on n'aime pas les Américains, mais l'enthousiasme de l'Américain, et vous êtes encouragé que vous couriez en 2h10 ou alors en 4h58 avec votre prénom sur votre dossard et go, Henri, Philippe, etc. Donc votre ego en prend un coup et on est tous des champions du monde lorsqu'on fait le marathon de New York.
Et quand on finit, le lendemain, vous avez votre nom dans le New York Times, qui est publié, chaque finisseur, les finishers, comme on dit, ont leur nom publié avec leur temps dans le New York Times. Ce marathon de New York, il mesure précisément, comme tous les marathons, 42 km 195. Et souvent, on entend que c'est la distance qu'aurait parcouru le messager grec après la bataille de Marathon pour prévenir Athènes. Or, c'est faux. Voici d'où vient précisément cette fameuse distance.
La distance même de 42 km 195 remonte en réalité aux Jeux Olympiques modernes, là encore, et plus précisément à ceux de Londres en 1908. C'est la distance exacte qui sépare le château de Windsor du stade de White City. Il y a 26 miles entre les deux endroits. C'est d'ailleurs la dernière fois que le marathon a été disputé en ligne droite. On sait que maintenant, il s'agit en général d'une boucle.
Et voilà, c'est pour que la famille royale d'Angleterre puisse voir passer le marathon en 1908 que cette distance de 26 miles, donc 42 km 195, a été établie comme celle officielle de cette compétition. Alors, ces 42 km 195, Stéphane Lhermitte, Fred Lebeau, donc décide à New York de les faire sortir
sortir de Central Park. Hein. Pierre Morat nous a expliqué, au début, on court les premiers marathons de New York, de 70 à 75, on court dans Central Park. On fait des boucles dans Central Park de 42 km. Or, en 76, il décide de sortir de Central Park pour, quelque part, unifier la ville. Vous savez, dans la constitution américaine, il y a « United we stand ». L'union fait la force, c'est très important, et Fred Lebow a l'intention d'unir les cinq quartiers de New York. On les connaît tous, le Bronx, le Queens, Staten Island, Brooklyn et Manhattan. Donc la course va passer par les cinq quartiers de New York, mais c'est une vraie, c'est un idéal là aussi pour Fred Lebow. C'est qu'il veut, que le New-Yorkais se réapproprie sa ville qui est sinistrée par la crise économique et par la criminalité.
Ouais, c'est ça, parce que quand on regarde notre planète, alors comme disait Éluard, là, la Terre est une orange bleue, voilà. Et là, New York, c'est la pomme. Et la pomme, en fait, c'est le cœur. C'est le cœur sur la planète. Et là, on va vraiment au cœur où on va passer dans une ville qui est cosmopolite, dans une ville où il y a pas que le quartier juif, où il y a toutes les religions, dans une ville où on a les tours un peu phalliques qui symbolisent la richesse économique, mais on va aussi aller dans le Bronx. Donc on va passer au niveau de la religion, de l'économie et de tout ce qui est dans une société, on va passer absolument partout. Et tout le monde encourage tout le monde.
Pierre Morat, vous êtes historien, et en tant qu'historien, le contexte, forcément, ça vous interpelle, ça vous intéresse, c'est même une dimension très importante. Ce marathon de New York, il naît au début des 70s, là où on croise dans une ville de New York Andy Warhol, Africa Bambaataa, Martin Scorsese, le Velvet Underground. C'est la même racine, j'ai envie de dire, parce que finalement, c'est une expérience de liberté, c'est-à-dire que Taxi Driver et le marathon de New York sont cousins quelque part. Pierre, vous êtes d'accord avec ça?
Oui et non. Je dirais que Marathon Man est cousin. Marathon Man est aussi un film représentatif et symbolique du nouvel Hollywood. Mais Marathon Man, c'est de John Schlesinger, c'est avec Dustin Hoffman. Fait découvrir effectivement non pas le marathon de New York, mais le jogging à une population très très large à travers ces plans de Dustin Hoffman qui s'entraînent autour du réservoir de Central Park. Et ça va créer le lieu mythique d'entraînement à New York et même à l'échelle mondiale que vont devenir Central Park et le réservoir. Et ça, le nouvel Hollywood, incarné par Marathon Man, a un rôle fondamental dans tout cela. En revanche, ce qui est très important à dire, c'est ce qui crée finalement la dynamique course à pied, la dynamique marathon au niveau populaire, avec ce modèle important qui vient des États-Unis, c'est comme l'a expliqué Dominique Chevalier, ça a eu la même emprise sur lui, c'est ce qui se passe aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. En 72 à Munich, les Américains n'ont plus gagné sur marathon aux Jeux Olympiques depuis 1908. Justement, cette année, ces Jeux Olympiques où la distance du marathon a été fixée à Londres en 1908. Hayes avait gagné dans la finale complètement fou contre l'Italien Pietri. Et en 72, Shorter, non seulement c'est un Américain qui gagne, mais surtout, c'est une personne très éduquée, c'est un étudiant en droit, alors qu'on pensait que le marathon était plutôt réservé à une caste un peu de col bleu, incarné par des Mimoun en France ou par des Atopec à l'échelle européenne. Or, il gagne non seulement avec beaucoup de style, avec une aisance apparente, et en même temps, c'est un homme extrêmement éduqué. Donc, toute la population mondiale, finalement, toutes ces nouveaux riches se disent, mais finalement, le marathon n'est pas un enfer. Le marathon est peut-être accessible à tout le monde, et c'est ce qui crée la popularisation du marathon au même titre en 76, en 76, que effectivement son ouverture aux cinq grands quartiers de la ville.
Pierre, je reste avec vous parce que dans ce film fantastique que vous avez réalisé, Free to Run, on s'aperçoit aussi que ce marathon de New York, avec d'autres, mais cette course à pied dans New York, c'est aussi un grand mouvement d'émancipation féminine, on ne le dit jamais assez, courir dans la ville pour les femmes, c'était le droit de s'emparer à nouveau de leur corps contre les préjugés de la société et contre des préjugés médicaux. C'est-à-dire que ce marathon de New York, c'est aussi une émancipation féminine, Pierre.
Oui, alors ça a été d'abord incarné par Boston, puisque les événements qui ont mis en scène Bobby Gibbs en 66 et Catherine Filter, la partenariat justement de la cause féminine dans le marathon ont eu lieu à Boston. Mais New York a pris un relais de manière incroyable à travers justement ce côté front féminin de Fred Lebeau. Il faut savoir que parallèlement au marathon de New York, il a organisé dès 1974 la première course, et c'était complètement révolutionnaire à l'époque, dans Central Park, la première course uniquement réservée aux femmes et sponsorisée par une marque de crème à épiler, le Crazy Legs Mini Marathon. Et donc, il a eu un rôle hyper, hyper important, Fred Lebeau, dans l'émancipation des femmes en course à pied.
Dominique Chevelier, quand on a fait 25 marathons de New York, on sait à quel point toute la ville de New York vit ce jour-là pour ses marathoniens et pour son marathon. Ce sont des sensations incroyables, j'imagine. Quel regard on porte sur New York, sur New York City, la ville, pendant la course, Dominique ?
Alors, en effet, on le sait tous, hein, New York, ce n'est pas les États-Unis. New York, c'est New York. Hein. Pierre Morade l'a dit tout à l'heure, le côté gigantesque de New York. Vous êtes, moi, je l'ai fait 25 fois, et à chaque fois que j'y vais, je suis comme un grand gosse. C'est Noël pour moi. Je lève les yeux, je regarde ces tours, je regarde ce mélange de cultures, etc. C'est vraiment enrichissant. Voilà, 5 jours à New York, plus c'est abrutissant, mais 4-5 jours à New York... vous revenez regonflé comme c'est pas possible. Et si j'ai qu'un marathon à faire, hein, parce que j'en ai fait une centaine, hein, 100, 110, si j'en ai qu'un à faire par an, hein, j'ai 64 ans aujourd'hui, eh bien c'est encore aujourd'hui, ça serait le marathon de New York. Et tout à l'heure, vous me demandiez mon meilleur souvenir. Oui. Eh bien, c'est tout simplement d'être passé en tête sur le pont du Queensboro. C'est au 23e kilomètre, hein, dans le groupe de tête. C'est-à-dire, bon, allez, comme ça, quand je reviendrai, je pourrais dire qu'un jour, je suis passé en tête au Queensboro et vous retombez sur la première avenue. À la fin, j'ai un peu craqué. J'ai fait 16e du classement général.
Mais quand même, premier master.
Mais quand même. Et aujourd'hui, hein, aujourd'hui, je vais arriver 1500e. Je me dis, il y a 20 ans, j'étais en tête ici au Queensboro. Vous voyez, je suis comme un grand gosse. Je joue à courir lorsque ce sont des grands joueurs, ces Américains, ces New-Yorkais. Donc, je joue à faire le marathon de New York.
Dominique, j'ai lu que vous disiez souvent que pour un marathonien, le marathon de New York, c'est le Graal du marathonien. Or, vous avez aussi fait un marathon de Jeux Olympiques à Barcelone en 92. Vous finissez 31e, je crois. Voilà une énorme performance à nouveau. Mais est-ce que c'est pas le Graal, le marathon des Jeux Olympiques? Parce que c'est la continuité, justement, olympique. Est-ce que c'est pas au-dessus un marathon olympique qu'un marathon de New York?
Alors, demain, vous me demandez, est-ce que tu veux être champion olympique ou gagner le marathon de New York?
Alors,
en effet, je mettrai quand même le titre olympique. Mettre entre champion du monde de marathon ou gagner le marathon de New York. Ah ben là, je mets le marathon de New York de loin devant. Donc en un, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans.
D'accord.
Et en deux, le marathon de New York. Mais tout ça va se jouer. Ça se joue au sprint entre ces deux grandes épreuves. Ouais, New York, c'est le top. Hein. Tous les gens connaissent le marathon de New York. Ah oui, tu as fait le marathon de New York.
Et oui, c'est vrai.
Autrefois en France, hein, il y a dans les années 80, c'était le Cross du Figaro. En France, lorsque tu faisais de la course à pied, est-ce que tu as fait le Cross du Figaro? Aujourd'hui, vous faites de la course à pied, ah, tu as fait le marathon de New York.
C'est vrai. Stéphane Lamitte a...
Ouais, la grosse différence entre New York et les JO, en fait, New York, c'est pour tout le monde. Le vainqueur, on ne le connaît pas. Alors que les JO, ben, on se souvient de Bikila à Pied à Rome, on se souvient du coréen ou du japonais en 1930, on se souvient encore du deuxième... au Brésil qui lève les bras pour protester contre la situation des Érythréens. Voilà, c'est deux choses qui sont très différentes.
Très différentes. On va faire une pause musicale avec un morceau Made in Austin au Texas, un duo funk et soul so chic. Voici les Black Pumas. Le titre joué, Black Cat. Let's go.
The scars that shine on me. I see the girl.
du Tigre.
Il y a 6 000 personnes qui courent dans les rues de New York, qui visitent tous les quartiers, de Brooklyn au Queens, à Manhattan, pour arriver à Central Park. C'est un événement qui va prendre de l'ampleur sans aucun doute.
Philippe Collin.
New York est une ville dans laquelle on est enfermé, une ville dans laquelle on veut respirer. Eh bien, désormais, les New Yorkais viennent de découvrir qu'il y avait un bon moyen pour résister à l'environnement difficile, c'est la course à pied.
Sur France Inter.
En novembre 1977, la rédaction d'Antenne 2, comme on disait alors, envoie un de ses reporters à New York pour couvrir ce phénomène qui prend une ampleur hallucinante dans les rues de la ville-monde, son marathon. D'aucuns disent à l'époque que le succès mondial l'année précédente de Marathon Man, film de John Schlesinger, qui met en scène Dustin Hoffman, un étudiant new-yorkais qui s'entraîne d'arrache-pied pour courir un marathon, et bien ce film aurait participé à générer cet engouement populaire. Les adeptes de l'asphalte affirmait au contraire que c'est bien l'avènement de la course à pied qui aurait orienté le scénario. Toujours est-il qu'à l'automne 77, le marathon de New York prend son envol.
New York, capitale de la course à pied pour un dimanche. Près de 5 000 candidats à la traversée de la ville, de Staten Island, ici, à Central Park, en passant par Brooklyn, le Queens, le Bronx, et arriver en plein cœur de Manhattan. Une visite, donc, dans les 5 grands quartiers, une visite à pied, oui, mais en courant, et selon ses moyens. En 2h30, 3h ou plus. C'est le deuxième marathon, 42 km de New York, avec dans la foule, et bientôt sur la ligne de départ, un Français, Fernand Colbeck, 33 ans, de Strasbourg, visiteur inattendu, étonné de constater qu'une mode s'empare des Américains, la course à pied. Il ne se dit pas ici footing, mais jogging.
Alors nous avons ce soir avec nous un autre Français qui est un grand amateur de ce marathon de New York, Dominique Chevalier. Vous avez couru 25 fois le marathon de New York, je le rappelle, hein. Il y en a eu 50, donc il y en a un sur deux où vous étiez sur la ligne de départ et à la ligne d'arrivée. J'imagine que vous deviez être sur la 50e évidemment édition qui a été annulée à cause de la crise sanitaire, évidemment, le 1er novembre dernier. Dominique, quand on a fait 25 éditions, on a un paysage, on a une vue d'ensemble de 25 ans. Qu'est-ce qui a pour vous le plus changé entre votre premier marathon de New York et le dernier que vous avez fait l'an passé en 2019?
Oh bah l'immensité, on est arrivé aujourd'hui à plus de 50 000 participants et depuis quelques années, on part par vague, c'est-à-dire on en fait partir 15 000. On attend une demi-heure, on en fait partir 15 000 autres, on attend encore une demi-heure, et ensuite une troisième vague, donc ça fait 45 000. Donc on part par vague, c'est-à-dire que le dernier à franchir la ligne de départ va partir peut-être avec 1h30 de retard sur le premier qui va bientôt arriver à Central Park. Donc un petit peu, bah c'est le business qui l'a emporté, hein, c'est des gros sponsors. Il y a un naming sur le marathon de New York, hein, on dit pas le marathon de New York, hein, on cite le nom du sponsor principal, ce fameux naming. Tout a évolué, hein, le digital, etc. Alors peut-être que je suis un petit peu vieux jeu, je préférais quand même qu'on soit que 10, 15, 20 000, mais on partait tous ensemble et vaille qui vaille, le meilleur l'emporte. Voilà, mais c'est notre société, c'est partout pareil, quoi, l'immensité, mais de toute façon, là encore, le gigantisme américain.
Stéphane Lhermitte, vous êtes vous grand reporter à l'équipe. Il vient de prononcer le mot business, Dominique Chevalier. C'est vrai que pour à la fois survivre et puis défendre sa cause, au départ, le marathon a dû accepter des sponsors de plus en plus gros et puis ça a pris une ampleur incroyable. Aujourd'hui, il y a tellement peu de place qu'on doit être tiré au sort quand on veut participer au marathon de New York. Mais est-ce que, évidemment, la question se pose, est-ce que ce marathon de New York avec son idéal de début n'est pas tombé dans le piège de l'argent quand même?
Ben, effectivement, au départ, $1 pour s'inscrire en 70, voilà. Oui. Maintenant, voilà, à Paris, c'est dans les 100 euros. New York, c'était 300 euros. Voilà, on est dans une espèce de cash machine. Il faut gagner de l'argent. Et alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec Pierre Morat là-dessus, mais est-ce que la démocratisation est en danger? Moi, je pense que non. Je pense qu'on peut encore courir pour pas cher, ou on peut s'offrir une fois le marathon de Paris ou de New York. C'est pas un investissement énormissime. Mais peut-être effectivement qu'on ait une sorte d'embourgeoisement, parce qu'il faut aussi avoir des montres ceci, des chaussures comme ça. Et voilà, peut-être effectivement qu'on est en train de perdre ce retour aux origines.
Pierre Morat est avec nous, vous êtes historien, cinéaste et auteur de Free to Run, ce magnifique documentaire sur l'histoire du running. Dans ce tourbillon de l'argent, Pierre, il y a eu une séquence très compliquée en 2012, puisque l'ouragan Sandy a frappé New York quelques jours avant le marathon de New York. C'est 40 morts, c'est des centaines de personnes privées de logement, d'électricité, c'était une ville très meurtrie. Et on a hésité à annuler ce marathon de New York. Et c'est là qu'on a vu aussi peut-être le renversement des valeurs, Pierre, parce que au départ, le marathon était un geste militant, on va dire, et à l'arrivée, ça devient une pratique ultra-individualiste. On disait, en gros, hey, c'est bon, je suis là, il y a des morts, je vais quand même courir mon marathon, je ne suis pas venu pour rien. Ça a été très compliqué, ce marathon 2012, Pierre.
Oui, c'était compliqué. Bon, il a été annulé.
Finalement, oui.
Même si certaines personnes ont couru de leur côté de manière off, ce qui est devenu un peu la norme aujourd'hui avec en temps de Covid, mais à l'époque, certains avaient couru le Anyway Marathon dans Central Park, donc marathon malgré tout. En fait, ça avait révélé pas mal de choses, ce marathon annulé de 2012, c'est pour un an, c'est-à-dire que la pression de l'argent était telle, à la fois sur les organisateurs, sur la ville, mais aussi sur les coureurs qui finalement avaient dépensé tant d'argent pour pouvoir se payer le marathon de New York, pour certains c'est une somme très importante, 2 000, 3 000 euros, qu'on en oubliait finalement la situation, les sinistrés, les personnes qui étaient mortes, l'ouragan qui était aux portes de la ville, etc., pour se dire « j'ai payé, je dois courir, j'ai payé, j'ai droit à mon dossard ». Et c'était assez marrant comme ça a révélé un petit peu de la nature humaine. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, normalement quand on fait un anniversaire important d'une course à pied, on fête plutôt la 50e ou la 100e ou la 20e édition. Et en fait, cette 50e ou cette 20e édition, elle tombe sur une année entre guillemets ronde. Étant donné le 50e anniversaire plutôt que la 20e édition, le 50e anniversaire, il aurait dû avoir lieu en 2019 pour le marathon de New York. Mais vu que l'édition 2012 avait été annulée, finalement, les 50 ans du marathon la 50e édition du marathon coïncidait avec son 50e anniversaire dans le cadre de l'histoire de New York.
Stéphane Lhermitte, ce marathon de New York, il a connu des épisodes plus nobles, on va dire, que cette affaire de Sandy, notamment en 2001, puisque le marathon a lieu quelques semaines après les attentats du World Trade Center, et il y a eu une immense émotion pour ce marathon 2001, comme une sorte de catharsis un peu pour la ville. Notamment, beaucoup de coureurs avaient récupéré des dossards de victimes qui devaient courir le marathon, qui se sont mis à courir avec le dossard des morts, on va dire. Et notamment, il y avait un slogan mis en place par les organisateurs qui était « United we run », pour faire écho encore à la constitution américaine, « United we stand, United we run ». C'était vraiment un moment de catharsis très fort aux États-Unis, ce marathon de New York.
Oui, je pense que le marathon de New York, mais pas seulement, c'est plus que courir, c'est plus qu'une performance. D'ailleurs, le chrono à New York, on s'en fout. Le gars qui devant, ça va pas vite. C'est pas ça qui est important. Il y a toujours des messages qui sont beaucoup plus forts que le simple fait de faire un chrono. Et par exemple, il y a un autre message. Par exemple, il y avait une présentatrice de télé dont la surcharge pondérale était assez notoire, Oprah Winfrey, qui avait réussi à faire un marathon. Et les gens, sur les années d'après, essayaient de faire comme elle. Voilà. Et à chaque fois, il y a du sens qui s'impose avec la course.
Dominique Chevalier, vous étiez à ce marathon 2001. Vous y étiez à New York?
Oui, oui, oui.
Et quel souvenir vous avez de ce moment post-attentat à New York pour ce marathon un peu particulier, j'imagine?
Ouais, j'étais avec mon ami Philippe Raymond, qui est l'un des meilleurs coureurs français. On a été à l'endroit des tours et on a pleuré. Là, c'était impossible de pas retenir son émotion, les larmes. On a pleuré. C'était septembre, novembre. C'était un mois et demi après. Vraiment très émouvant. Et le départ, mais là aussi au départ du marathon, les discours, l'hymne américain. Vous frissonniez, non, c'était vraiment spécial. Tout le départ, il y avait les hélicoptères de l'armée, les bateaux de guerre en bas du pont. C'était très très impressionnant, grand et gros souvenir, grosse émotion.
Pierre Murat, je reviens à Fred Lebeau quelques instants, qui est donc ce personnage qui a initié le marathon de New York au début des 70s. Je me souviens, dans votre film Free to Run, on voit évidemment des images des années 70 d'un New York abîmé, d'un New York sale, d'un New York en proie à la crise économique et à la criminalité. Il y avait chez Fred Lebeau peut-être ce désir de transcender un peu la ville dans le sens de lutter contre un destin contraire, hein. C'est-à-dire que il y avait aussi une exaltation, peut-être montrer aux gens que courir, c'était peut-être aussi faire renaître la ville. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre ?
Alors, je ne sais pas si c'était une volonté affirmée de Fred, mais il est clair qu'il a très vite senti la capacité que pouvait avoir la course à pied et des grands événements populaires de course à pied pour rassembler les hommes, pour rassembler les différences, pour unifier les gens, pour les faire se rencontrer. Je crois que c'était ça, sa grande idée. C'est vrai que ce qui s'est passé en 76 avec ce premier marathon, personne n'y croyait, ce premier marathon dans les cinq quartiers qui passe par Staten Island, qui parle le Bronx. Le Bronx, c'était une zone de non-droit à l'époque. Harlem, le haut de Manhattan, c'était quelque chose qui était... Les gens disaient, il va y avoir des morts, il va y avoir des agressions, il va y avoir des voitures qui vont rentrer dans les coureurs. Rien de tout ça. Il y a eu 2500 coureurs, ça a été quelque chose de fantastique, de magique. Les gens étaient aux fenêtres, ils regardaient passer ces coureurs hallucinés et à la fois admiratifs. Ça a été quelque chose d'incroyable et ça a été vraiment un déclencheur pour voir à quel point ce marathon, au milieu des gens, au milieu de la ville, vraiment, pouvait changer les choses et pouvait être un élément unificateur pour toute cette New York si cosmopolite et si différente.
Stéphane Lhermitte, aujourd'hui donc le marathon de New York a été annulé ce mois-ci pour la cause de Covid, évidemment. Nous sommes confinés, nous avons vécu un premier confinement tous au niveau mondial au printemps, second confinement maintenant, mais on a encore le droit de courir. C'est-à-dire que très vite, y compris dans ce premier confinement qui était très serré, très compliqué, avec beaucoup d'interdits, on a autorisé les gens à courir dans la ville, dans les grandes villes du monde, notamment et Paris. Donc ça reste quand même un acte de liberté. Aujourd'hui encore, on peut courir dans Paris. Ce matin, on pouvait courir dans Paris. C'est ce que j'ai fait moi-même pour tout vous dire. Et donc on a le droit à ça, on a le droit à cette liberté-là. Ça reste un acte de liberté, courir.
Oui, on revient au point de départ. Finalement, on a compris que c'était un besoin, que ça pouvait être un besoin essentiel. Et beaucoup de gens se moquent des nouveaux coureurs, des nouveaux coureurs grâce au Covid. Non, ne nous moquons pas. Au contraire, ce sont des gens qui, un peu comme finalement le premier marathon de New York, sont des gens qui accèdent à la course et qui, encore une fois, trouvent que c'est pas une pratique dénuée de sens, que c'est un voyage incroyable en soi. Enfin, que c'est une bénédiction finalement.
Pierre Morat, un mot sur cet acte de liberté. Ça me fait penser à ce personnage incroyable qu'on croise dans votre film qui s'appelle Noël Tamini, qui était une sorte de poète de la course à pied avec sa revue Spiridon, un personnage extraordinaire qui disait à la fin du film « Tant qu'on nous laisse courir, tout ira bien ». Est-ce que dans ce confinement où on nous laisse courir, c'est aussi un horizon d'espoir et de joie, Pierre Morat ?
Oui, ben disons que je pense que le fait, tout ce que peut générer un sport, les sports d'endurance en général, mais plus encore que tous les autres, sans doute la course à pied, de par la liberté, qui est dans ses gènes quelque part, puisqu'on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin d'infrastructure, on n'a pas besoin de matériel, il suffit juste de ses deux jambes, d'une paire de chaussures et on peut partir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sur n'importe quelle distance, en ville, à la campagne, partout, et ben tout ça, c'est ce qui fait l'essence même de la course à pied et de la course à pied seule. Et effectivement, et là je rebondis sur ce que disait Stéphane Lhermitte, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui, sur le fait que cette démocratisation en marge de la course à pied, indépendamment du business, va continuer, bien sûr. Il y a de plus en plus de couches sociales, entre guillemets, plus défavorisées qui se mettent à la course à pied. À l'échelle mondiale, on court de manière populaire, même dans les pays en voie de développement aujourd'hui. Je pense que ce mouvement-là, il va bien sûr continuer parce que la course à pied porte en elle les gènes de quelque chose qui est unique en termes, effectivement, de liberté. Mais une liberté qui est multidimensionnelle, une liberté qui est très intrinsèque potentiellement à l'individu.
Dominique Chevalier, vous avez aujourd'hui 64 ans, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça représente en 2020 pour vous de courir ? Quel sens vous donnez encore à vos envies de marathon aujourd'hui à 65 ans presque ?
C'est ma vie, hein. Voilà, je cours depuis 52 ans, depuis l'âge de 13-14 ans. Certains me disent, mais pourquoi tu cours encore? C'est plutôt l'inverse. Pourquoi je ne courrais plus? Si je suis ce que je suis, l'homme que je suis, c'est parce que je cours. J'ai besoin. Alors maintenant, c'est, j'allais dire, que 5 fois par semaine, ce qui est énorme pour la plupart d'entre vous. Mais si j'ai pas ça, je me sens sale de l'intérieur. Donc voilà, c'est une histoire de bien vieillir. C'est hygiénique, c'est sociétal, c'est tout à la fois. Et en plus, j'ai vécu tout ça financièrement de tout. Donc j'ai vécu de ma passion. En un mot, je suis un homme heureux parce que j'ai été coureur à pied et je serai encore coureur à pied.
Et est-ce que vous serez à New York en 2021 pour le 50e marathon de New York? On espère qu'il aura lieu en 2021. Vous y serez ou pas, Dominique?
Ouais, donc je bosse, hein, je suis consultant pour des tour opérateurs, hein, vous savez, pour avoir un dossard, vous êtes obligé d'acheter le billet d'avion, l'hôtel et le dossard. C'est un package, hein,
on revient au business.
Et moi, je suis un peu le coach sportif de ce tour opérateur et j'emmène les gens au marathon et je prends mon dossard naturellement pour y participer.
Eh bien, merci à vous trois d'être venus ce soir. Je rappelle que vous pouvez vous précipiter sur le film de Pierre Mora, Free to Run ou l'histoire du running. Vous pouvez aussi vous procurer l'excellente série d'articles signée Stéphane Lhermitte consacrée aux origines de la course à pied. C'est à retrouver sur le site de l'équipe, le journal L'Équipe. Merci à vous trois, merci bien. On continue en musique avec La Victoire en chantant, la chronique de Pierre-Étienne Minanzio, plume de L'Équipe, justement, notre partenaire cette année. Ce soir, il me semble qu'on y croise Mozart. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors, quel est le programme?
Ce soir, je vais vous parler des liens très forts qui unissent deux univers qu'a priori tout oppose, avec d'un côté un sport viril, voire violent, le rugby, et de l'autre un genre musical, disons plus raffiné, la musique classique.
C'est original, mais pourquoi on en parle ce soir?
Bon, d'abord parce que le 15 de France a affronté l'Écosse cet après-midi.
Oui.
Mais aussi parce que vendredi prochain, nous allons célébrer le 65e anniversaire de la mort d'Arthur Honegger. Or, ce compositeur classique suisse a été le grand ordonnateur du rapprochement entre l'Ovalie et la musique dite savante. En 1928, il a en effet créé un mouvement symphonique nommé Rugby. Écoutez l'intro.
Alors, est-ce que cette œuvre est censée raconter en musique un match de rugby?
Pas tout à fait.
Ah.
Avec ce mouvement symphonique, Honegger a voulu témoigner de son amour profond pour ce sport, car il se rendait souvent au stade Yves du Manoir de Colombes pour assister aux rencontres du 15 de France. Au moment de la sortie de Rugby, le compositeur suisse confiait « Je cherche tout simplement à exprimer, dans ma langue de musicien, les attaques et les ripostes du jeu, le rythme et la couleur d'un match au stade de Colombes. Dans rugby, les nombreuses ruptures mélodiques illustrent ainsi les courses irrégulières des joueurs pendant un match. »
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui le rugby et la musique classique continuent de dialoguer ensemble?
Oui, et de manière très originale. Par exemple, en 2018, pour générer des revenus, le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne avait organisé avec l'orchestre Ostinato un concert philharmonique. Celui-ci avait été suivi d'un repas ouvert aux sociétaires du club où, à chaque table, siégeaient un rugbyman et un musicien. Toujours en 2018, s'est tenu à Clermont un spectacle pour enfants nommé « À vos marques ». Sous la direction de deux Britanniques, Alasdair Malloy et Geoffrey Styles, l'orchestre d'Auvergne utilisait les codes du rugby pour susciter la curiosité de futurs mélomanes. Voici le compte-rendu qu'en avait fait France 3.
On a beau être à l'Opéra-Théâtre, tout porte à croire qu'on assiste à un match de rugby. Sur scène, deux équipes de musiciens, aux maillots différents. Ils jouent le match pendant une heure musicale et sportive. Objectif de ce spectacle, faire participer le public. On chante, on nage, on saute. Il y en a pour tous les goûts.
Donc, si j'ai bien compris, la musique classique peut séduire de jeunes amateurs de rugby. Mais est-ce qu'elle plaît aussi aux joueurs professionnels?
énormément.
Ah.
Ils sont nombreux à l'écouter pour se détendre avant un match. C'était le cas du deuxième ligne de l'équipe de France, Olivier Merle, ou du troisième ligne écossais, Simon Taylor, ainsi que, plus récemment, de Fulgence Ouédraogo, le capitaine de Montpellier. Mais le plus grand amateur de musique classique dans le monde du rugby est sans doute l'ex-arbitre international australien Wayne Erickson. Il est connu pour avoir développé une passion obsessionnelle pour Wolfgang Amadeus Mozart. D'ailleurs, en 1996, avant la finale du Super 12, une compétition qui oppose des franchises de l'hémisphère sud, les organisateurs, pour mettre cet arbitre dans les meilleures dispositions, avaient diffusé dans la sono de l'Eden Park d'Auckland la symphonie numéro 41 de Mozart.
Dans un stade, ça doit être splendide. Est-ce qu'il existe d'autres œuvres du répertoire classique qui sont parfois proposées avant des matchs de rugby ?
Oui, on peut citer l'énergique ouverture de Carmina Burana, une cantate composée par l'allemand Karl Orff en 1935, qui a résonné récemment à Cardiff ou à Bordeaux afin de faire monter l'ambiance dans les tribunes avant le coup d'envoi. Avec un certain succès d'ailleurs. Preuve que ce mariage inattendu entre le rugby et la musique classique qui dure depuis près de 100 ans, a encore de beaux jours devant lui.
Merci beaucoup Pierre-Étienne, grâce à vous on a un peu causé rugby, c'est le défaut de cette émission, on n'en parle pas assez de rugby. Merci Pierre-Étienne, à la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Salut, ciao. Et voilà, cette 12e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assister à la technique ce soir de Tristan Gratalon. Merci à lui, merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre. Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'une épreuve sportive en triptyque. Natation, cyclisme et course à pied. L'historien Georges Vigarello, joie et bonheur, on reçoit Vigarello. Il vient nous raconter l'histoire et l'essence, Vigarello, du triathlon. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.